Notre rendez-vous avec l'espace associatif de Quimper-Cornouaille est bel et bien là, comme chaque premier lundi du mois. Et aujourd'hui, on vous invite à prendre de la hauteur. Guillaume Hardy, le responsable du Centre Ressources, propose aussi des ressources de pensée. Il préconise à celles et ceux qui créent ou qui dirigent une association de lire Saul Alinsky.
Saul Alinsky, c'était un sociologue américain qui est né à Chicago au début du siècle, 1909. Hein, et il est connu principalement pour avoir publié un ouvrage en anglais, Rules for Radicals, qui a été traduit en France au début des années 70, sous le titre de Manuel de l'animateur social. Et Manuel qui a inspiré beaucoup de formations des travailleurs sociaux dans les réseaux des maisons de quartier, dans les réseaux des centres sociaux, qui a irrigué aussi toute la pensée autour des régies de quartier, donc sur des méthodes d'organisation des gens, des populations dans les quartiers pour aider à résoudre un certain nombre de résoudre les problèmes qu'on pouvait rencontrer de vie quotidienne et les problèmes sociaux. Il a été aussi, il est revenu au goût du jour, notamment parce que un certain Barack Obama a fait sa thèse dessus et s'en est inspiré lors de sa campagne électorale pour mobiliser, pour aller chercher les gens et pour essayer de co-construire en fait des réponses adaptées dans les quartiers. Donc donc ce livre a été retraduit et réédité en 2010-2012 sous le titre de « Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes ».
Aux États-Unis, il n'existe pas à proprement parler d'association loi 1901, enfin en tout cas pas comme en France, mais néanmoins sa pensée, ce qu'il dit, peut être utile pour la pratique associative.
Alors tout à fait. En fait, il est parti, il a commencé sa carrière en criminologie, faisant une thèse sur Al Capone et les réseaux mafieux à Chicago dans les années 30. Et il en est ressorti avec le constat que les problèmes sociaux, enfin la délinquance, ne pouvait pas être résolu simplement par la police, mais était dû à un certain nombre de problèmes sociaux, de problèmes de logement, de problèmes de chômage, de problèmes de santé, et que c'était ça qu'il fallait prendre à bras-le-corps. Hein. Et du coup, il est allé s'installer dans des quartiers, vraiment s'installer, prendre logement et vivre dans ces quartiers-là. Commencer beaucoup par écouter les gens, apprendre... connaître très précisément les revendications individuelles et puis rassembler ces personnes-là, rassembler des habitants, des leaders d'opinion, ceux qui animaient aussi les églises, parce que voilà, aux États-Unis, on fait aussi beaucoup de choses par ce biais-là, et organiser pour trouver des solutions contre le chômage et le mal logement notamment. Donc il a créé aussi un certain nombre de groupes d'actions et de groupes de citoyens pour faire pression au niveau des collectivités, au niveau des entreprises. Il y a aussi beaucoup bossé avec les syndicats aux États-Unis qui sont extrêmement puissants dans le privé. Et donc c'est fort de toute cette expérience de terrain, d'organisation et des succès en fait qu'il a pu rencontrer dans l'amélioration très concrète des conditions de vie des quartiers pauvres de Chicago, qu'il a commencé à mettre un petit peu noir sur blanc sa manière d'agir, ses méthodes, ses tactiques dont il parle beaucoup, et a formé énormément d'organisateurs, des organisateurs sociaux, à ces méthodes-là pour aller diffuser un petit peu à travers le pays des modes d'action qui permettent voilà, l'organisation collective autour d'une problématique commune. Et finalement, quand on crée une association en France, quand on a un constat sur un quartier, sur un territoire rural, qu'il manque quelque chose ou qu'il y a un problème, créer une association, c'est également ça, c'est-à-dire mettre des gens autour d'une table pour essayer de trouver des solutions communes et les mettre en œuvre ensemble.
Et c'est quoi les points forts de sa pensée donc sur la logique collective ?
Sur la logique collective, Solanitsky a tout un chapitre sur les stratégies d'action. Et en fait, ces stratégies de passer d'une revendication individuelle à un projet collectif, qu'on utilise aussi régulièrement quand on fait de l'accompagnement associatif, ça passe par, tout d'abord, une excellente connaissance et une observation fine de la problématique elle-même, du quartier, de son territoire rural, de son village. Il faut, de son point de vue, les solutions, elles ne viennent pas de penseurs extérieurs ou de théories qui n'ont rien à voir avec, enfin, qui peuvent être pertinentes, mais qui ne sont pas ancrées directement dans les réalités et les revendications individuelles. Donc, il y a une première étape que lui, il a évoqué sous forme de tête-à-tête, c'est-à-dire vraiment d'aller discuter avec les gens, un par un, et cerner les problématiques individuelles autour de la thématique qui est évoquée. Quand on est, par exemple, on avait travaillé avec une association, enfin une personne qui souhaitait créer une association autour des problématiques des enfants qui ont des difficultés scolaires, qui sont pas tout à fait 10, donc qui rentrent pas tout à fait dans des problématiques de handicap, mais qui sont pas forcément adaptés au système scolaire. Et en fait, il y avait un certain nombre de... Le premier truc qui a été fait, c'était d'aller rencontrer des parents individuellement, d'aller prendre un café avec eux et discuter pendant 10 minutes ou 3 heures sur les réalités concrètes que rencontraient ces personnes-là pour arriver dans une deuxième étape, hein, mettre tous ces gens-là autour d'une table et de dire voilà, moi je vous ai tous rencontrés individuellement. Individuellement, vous avez tous évoqué tel point de difficulté. Et ben voilà, du coup, vous n'êtes pas seul, on est à plusieurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble pour résoudre nos problèmes ? Et donc de travailler beaucoup sur de l'interconnaissance des personnes et passer vraiment d'un truc de l'action pour lui, elle est ancrée dans un ressort très individuel. On agit parce qu'on a un intérêt individuel à agir. Et donc du coup, une fois qu'on a identifié ça et qu'on arrive à le mettre en commun, ben, on a un collectif qui est soudé et qui se reconnaît par une problématique individuelle. Donc ça, c'est une deuxième étape, de passer à du collectif. Et puis, une troisième étape, une fois que ce collectif se reconnaît dans une problématique commune, donc là, si je suis mon exemple, pour des parents d'élèves, d'organiser une première action, ce que lui, il a appelé la victoire facile. Commencer par monter, avant de s'attaquer réellement au fond du sujet et au fond du problème, de commencer par une action qui va souder le collectif, qui va souder le groupe, qui va non pas avoir l'ambition de résoudre le problème, mais qui va avoir pour ambition, pour le collectif, de se faire connaître, de poser des actes, de commencer à agir ensemble, de se rendre compte que oui, il est possible de faire bouger les lignes un petit peu, et sans s'épuiser, et en apprenant à se connaître dans l'action. Donc là, toujours pour suivre mon exemple, ça a été d'organiser une conférence, voilà, avec un conférencier. Donc c'était relativement facile à organiser, on avait un carnet d'adresses, faire venir quelqu'un, louer une salle, etc. Et du coup, on a eu un groupe de personnes, de parents, qui ont été rejoints par des enseignants sensibilisés à la cause, par des gens du domaine psy et orthophoniste qui se sont dit « mais bon sang, il se passe quelque chose de passionnant dans ce moment-là ». Et ce groupe de parents qui s'est dit « mais voilà, on est en mesure, on est capable de faire, non seulement on n'est plus seul, mais en plus enseignant, on est capable de faire quelque chose ». Et maintenant, ce quelque chose, quatrième étape, c'était de pouvoir passer vraiment à l'objectif de l'association, qui était de mettre en place des cellules de discussion avec l'éducation nationale, de mettre en place toute une série de services beaucoup plus complexes, beaucoup plus fins, avec des permanences, etc., etc., pour pouvoir venir en aide aux intervenants autour des enfants. Donc, Anixpi, pour lui, après, c'est vraiment passer vraiment à l'objet de la lutte, parce que, faut te rappeler du contexte, pour Anixpi, on est dans les années 60-70 aux États-Unis, il était beaucoup question de lutte sociale, parce qu'on était en guerre du Vietnam, on était beaucoup dans des combats autour des droits civiques, on parle beaucoup de lutte, d'ennemis, etc. Mais voilà, nous, dans notre cas, il s'agissait de vraiment d'aller au cœur du sujet, et puis surtout, étape importante dans la pensée d'Alinsky, c'est de célébrer les choses, de faire la fête, de dire merci et de passer du bon temps ensemble. Il rappelle sans arrêt dans son livre qu'une tactique et une stratégie, elle fonctionne que parce qu'on prend du plaisir à la réaliser. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir tendance à oublier ça dans nos associations. Le plaisir qu'on devrait, quelle que soit la lourdeur des thématiques qu'on peut aborder, le plaisir d'agir, le plaisir de faire des choses est fondamental pour pouvoir avoir envie de continuer sur le long terme. Une dernière étape, c'est pour les organisateurs de se rendre inutile vis-à-vis du collectif. Et là, c'est important pour les associations dont les fondateurs souhaitent à un moment donné se salarier de l'association. Si l'association fonctionne, dégage de l'argent, permet de se professionnaliser, les fondateurs qui souhaiteraient se retrouver salariés de l'association doivent quitter les conseils d'administration. Et donc, c'est toute une démarche un peu pour se rendre inutile dans le CA, que le CA puisse fonctionner et que la personne puisse se retrouver en position de salarié de la structure associative.
Et d'ailleurs, il analyse la posture du leader associatif. Des leaders associatifs, qu'est-ce qu'il en dit ?
Le conseil qu'on donne aux porteurs de projets, de se positionner comme un petit peu comme lui, il entendait de positionner les organisateurs des comités, des groupes de quartier qui formaient. C'est-à-dire, dans l'optique de se rendre inutile, de pouvoir non pas être porteur d'un projet, mais plutôt être garant d'un collectif qui va porter un projet, et que ce soit pas la personne qui seule, l'animateur ou le fondateur de l'association, en tout cas la porteur d'idées, qui porte les choses. Et donc du coup, dans ses formations et dans ses topos, il n'a pas peur effectivement d'aborder cette question du leader. Il faut qu'il y ait des leaders, quand bien même on fonctionne de manière très démocratique, quand bien même la parole circule et le collectif est au cœur de l'action, la position du leader est fondamentale. Et ce qui donne un profil un petit peu idéal d'un organisateur de communauté comme ça, ou d'un leader associatif qui serait amené à animer un groupe, autour de notions comme la grande curiosité sur le sujet, donc vraiment être pointu, se renseigner, se former, comprendre dans ces détails les plus fins la thématique qu'on est en train de traiter, que ce soit quelqu'un de très organisé également, parce que quand on doit gérer des collectifs, et ben du coup c'est plusieurs personnes, et c'est autant d'actions qui peuvent être menées, et en même temps qu'être organisé, il faut savoir avoir un grand sens de l'improvisation. Il donne énormément d'exemples dans son livre de petits coups de génie organisationnels et d'impro qui permettent vraiment de prendre la balle au bon et de saisir les opportunités. Mais également, il n'y a pas peur de parler d'ego aussi. Un leader doit avoir une certaine forme de confiance en lui et d'assumer cette position de leader et de la prendre à bras le corps en ego, qui n'est pas l'ego maladif et pathologique qui ferait que ce serait plus néfaste qu'autre chose, mais un ego dans lequel un collectif puisse se reconnaître et avoir confiance et suivre, puis également un sens de l'humour solide, parce que encore une fois, il met le plaisir, la fête au cœur de la lutte, et ça, ça passe aussi par un solide sens de l'humour de la part des leaders associatifs si on veut pouvoir emmener son monde sur du long terme.
Le manuel de l'animateur social de Saul Alinsky est disponible en PDF, en traduction ancienne, mais toujours valable, sur Internet.